Par interview sur un district radio, Julie Chaise-Martin, rencontre avec des acteurs et des personnalités du monde de l'art. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans Art Interview, je suis avec Isabelle de Maison Rouge par Skype toujours, puisqu'en ce moment les interviews Skype s'enchaînent évidemment, on est toujours en période de confinement. Isabelle de Maison Rouge, bonjour.
Bonjour, merci Julie.
Merci beaucoup d'être avec moi. Donc je vous vois et je vous entends, c'est déjà une bonne chose. Isabelle de Maison Rouge, vous êtes critique d'art, commissaire d'exposition, enseignante. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes très présente dans l'univers de l'art contemporain. Vous avez à cœur donc de transmettre les clés pour comprendre l'art contemporain. On peut le voir d'ailleurs si les auditeurs sont curieux d'aller voir un petit peu les livres que vous avez publiés. Mais ce sont souvent des livres qui dressent un panorama, disons, assez large de l'art contemporain pour avoir une visée un peu pédagogique aussi. Hein, j'ai eu l'impression de ça. Vous êtes d'ailleurs en préparation encore d'un ouvrage. Et autre dernière corde, enfin, multiple corde à votre arc, vous avez lancé au printemps dernier. Nous étions en plein dans le premier confinement, une initiative qui s'appelle Les Amis des Artistes. Et c'est une initiative solidaire qui vous est venue à l'esprit pour aider, pour venir en aide à une situation de précarité que les artistes commençaient à ressentir assez fortement au cours du premier confinement. Et voilà, vous avez été ému par... J'imagine certains artistes qui ont pu peut-être prendre contact avec vous, certains témoignages probablement. Comment ça s'est fait? Vous étiez toute seule? Vous vous êtes dit, voilà, je veux faire quelque chose?
Et j'étais comme tout le monde confinée, donc passé le premier moment de sidération, où tout d'un coup on se dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Je me suis dit, ben, on est tous coincés chez soi. Pour beaucoup de gens, c'est très douloureux. Et évidemment, m'est venu tout de suite à l'esprit les artistes. Alors, certains artistes avaient la chance d'être confinés dans un logement qui sert aussi d'atelier, mais pour d'autres, c'était impossible. Donc, pour certains, il n'était même plus question de créer. Et puis surtout, je me suis dit, mais sur le plan économique, comment vont-ils s'en sortir ? Et ça fait très longtemps que je réfléchis sur l'économie de l'artiste. Et donc, j'ai fait différents séminaires. Vous n'avez pas eu la gentillesse de parler de certains de mes livres qui abordent ces questions-là. Et du coup, forcément, cette notion de précarité de l'artiste, elle est très présente dans la vie quotidienne. Mais alors, dans un confinement, plus crucial. Donc, je me suis dit, bon, ben, tous les programmes sont bouleversés. Les artistes qui avaient des expositions en cours, ben personne ne peut les voir. Les artistes qui avaient des expositions programmées qui sont soit décalées au mieux, voire complètement annulées ou reportées au calendrier grec. Donc ça, c'est un vrai souci. Et puis les artistes qui n'avaient pas grand-chose, mais qui continuaient de travailler, comment vont-ils pouvoir continuer de vivre? Parce que c'est bien beau d'être confiné, mais il faut quand même payer son loyer, il faut quand même payer sa production. Enfin bon, déjà au quotidien, c'est pas facile, la vie d'artiste, mais là, fermé de cette façon-là, c'était plus compliqué. Et donc, je me suis dit, la seule chose à faire, c'est de pouvoir les aider à vendre. Mais vendre dans une période où tout est fermé, c'est pas simple. Donc, j'ai eu envie de voir qui avait envie de me rejoindre sur un projet de ce type. Et donc, j'ai lancé un certain nombre de mails à différentes personnes que je croise régulièrement, avec qui j'engage des réflexions sur ces sujets-là. Et au bout d'un moment, on s'est retrouvés à sept personnes, sept bonnes âmes, entre guillemets, qui avaient envie d'œuvrer pour aider les artistes à vendre des œuvres dans cette période compliquée. Et très vite, on s'est dit qu'on ne voulait surtout pas faire de ventes aux enchères caritatives. Parce que d'abord, les ventes aux enchères caritatives, il y en a plein. Ensuite, moi, je sais pertinemment comment ça fonctionne. Je ne veux pas rentrer dans le sujet aujourd'hui, mais il y a de quoi dire.
Une autre fois.
Et je pense surtout que ces ventes aux enchères ne sont pas bonnes pour la cote de l'artiste. Et donc, pour moi, c'est un véritable souci. Et le côté caritatif de la chose m'ennuyait. Moi, j'avais plus envie d'aller vers quelque chose de solidaire.
Oui, donc, surtout que c'est la cause des artistes eux-mêmes, en fait. Donc, ce ne sont pas des artistes qui donnent une œuvre pour une autre cause.
Voilà. C'était que les artistes puissent vendre pour eux-mêmes, et donc il fallait qu'ils aient le fruit de leur vente. En tordant la chose dans tous les sens avec ce petit groupe, donc les amis des artistes, ça se dit aussi l'ADA, et on a opté pour Instagram. Instagram qui est un réseau social que beaucoup d'artistes utilisent, mais que peu utilisent encore vraiment pour vendre. Et c'est vrai que quand on a démarré, on a quelques amis qui nous ont dit « Mais vous êtes complètement fous. Vous démarrez ça un samedi, vous démarrez ça sur Instagram, ça va jamais marcher. » En confinement, samedi, lundi, jeudi, il n'y a pas de
différence. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On avait un peu perdu la notion du temps.
Donc, c'était pas un vrai souci. Instagram, pourquoi pas? Parce que ça draine quand même beaucoup de gens. Et je pense que pour les arts plastiques, finalement, c'est un lieu qui est très intéressant parce que ça permet des connexions, ça permet de voir des œuvres. Bon, même si sur un petit objet comme celui-ci, c'est pas toujours simple, mais quand même, ça permet de voir circuler beaucoup de choses. Et ça permet aussi, c'est un outil. C'est un véritable outil qui permet de mettre les gens en relation et en connexion. Alors ça, c'est une chose que j'avais déjà pratiquée de différentes façons parce que j'ai monté différentes structures qui s'appellent Match Art ou Artists and Users. J'avais aussi fait déjà des choses dans le domaine du virtuel avec un magazine en ligne. Et puis récemment, avec les éditions Turbulence qui sont également en ligne, on avait monté une exposition virtuelle. C'était les éditions Tribu et on a créé Turbulence avec eux. Mmh. Et Turbulence, c'est une exposition virtuelle où on faisait un duo artiste et critique d'art et c'était présenté en ligne, notamment les réseaux sociaux. C'est un véritable outil qu'on peut utiliser pour ensuite se rencontrer dans la vraie vie et voir les œuvres en vrai.
Bien sûr.
C'est la possibilité. Donc, on a opté pour choisir les amis des artistes sous la forme d'Instagram. Mmh. Et en fait, l'avantage, c'est que c'est une structure extrêmement légère. Chaque artiste a son propre compte Instagram. Il poste sur son compte 3 œuvres avec le jeu des hashtags. Ça revient sur notre hashtag à nous. Et donc, on a une galerie virtuelle absolument incroyable. En plus, il y a des petites subtilités. On peut faire les amis des artistes dessin, les amis des artistes peinture. Donc, on peut faire des sous-catégories. Donc, ça permet justement de regrouper énormément de choses. Et donc, ça, je pense que les artistes ont très bien joué le jeu, très vite compris comment ça pouvait fonctionner. Mais quand on a démarré, on avait 0 artiste.
Ah oui, alors comment ça a pris ?
Effet boule de neige.
L'effet boule de neige.
On a contacté 2-3 artistes chacun, et puis chacun en a parlé à d'autres, et voilà. Alors, une autre chose qui était très importante pour nous aussi, c'était de bien respecter la cote de l'artiste, c'est-à-dire que les prix des œuvres devaient être les prix véritables des artistes. Alors, on leur a quand même demandé, parmi les 3 œuvres présentées, d'en mettre une à moins de 500 euros. Donc, ça peut être un petit dessin, ça peut être un multiple, ça peut être pour les artistes qui ont des prix bien plus élevés. Voilà. Et puis, les 2 autres œuvres à leur prix habituel. Et pour nous, ce qui était très important aussi, c'est que tous les artistes qui travaillent avec des professionnels du marché de l'art, c'est-à-dire des galeristes, des agents ou autres, qu'ils travaillent en concertation avec eux. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas travailler avec l'ADA sans avertir leur galeriste. Et au contraire, le prix de l'œuvre était fixé avec le galeriste. Et après ça, ils s'arrangent entre eux pour le pourcentage.
D'accord. Donc, il y avait différents... Là, c'était laissé selon leur propre situation à chacun.
Voilà. Exactement. Donc, on a beaucoup d'artistes avec galerie, beaucoup d'artistes sans galerie, et donc chacun se présente ses œuvres de la manière qu'il le souhaite. C'était justement de donner une sorte de responsabilisation à l'artiste. C'est pas le tout de poster 3 œuvres. Il faut ensuite les présenter de manière attrayante. Il faut être en lien justement avec son réseau. Et c'est comme ça que l'ADA a grandi. C'est-à-dire qu'on a eu de plus en plus d'artistes. Et du coup, chacun venant avec son propre réseau, les réseaux se sont croisés. Et maintenant, on a un réseau qui est devenu assez considérable.
Combien d'artistes, alors, justement, ont participé depuis le début? Là, on est aujourd'hui, on enregistre cette interview le 25 novembre. Je ne sais pas à quelle date précisément a été lancé le compte Instagram Les Amis des Artistes, mais du coup ça fait plusieurs mois. Combien d'artistes ont participé jusqu'ici?
Alors on a fait 2 opérations, donc premier confinement, deuxième confinement, donc l'ADA 1 et l'ADA 2.
Alors l'ADA 1 par exemple.
Au bout du compte, on a vu qu'on avait plus de 1600 artistes.
D'accord.
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que parmi les 1600 artistes, il y avait 70% de femmes. Ça nous a amené à réfléchir, à nous poser beaucoup de questions. Pourquoi y avait-il une si grande majorité de femmes? Et on n'a pas toutes les réponses, mais on a beaucoup de questions qui sont, à mon avis, très pertinentes et très intéressantes sur justement la condition des artistes, la condition des femmes artistes, la condition économique aussi de ces artistes. Bon, ça soulève énormément de questions qui, moi, m'intéressent beaucoup et que j'ai déjà aussi traitées dans certains de mes ouvrages. Et donc, ça m'a confortée dans ces réflexions-là. Et ça amène aussi peut-être à une réflexion pour l'avenir également.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez vendu... Plus de 300 œuvres ont été vendues via votre plateforme, donc Instagram, Les Amis des Artistes. 130 000 euros, j'ai noté, en tout cas pour le confinement 1, c'est ça, pour l'ADA 1. Donc, c'est une belle réussite. Vous avez eu beaucoup de presse aussi. Et comme vous le disiez très justement en parlant des femmes artistes, au-delà évidemment donc de pallier à une certaine urgence liée à une précarité croissante lors du premier confinement, il y a aussi le moyen pour cette initiative Les Amis des Artistes de dresser aussi une sorte de portrait robot peut-être à un instant T en tout cas de qu'est-ce que l'art où en est l'art contemporain, où en sont les artistes, et est-ce que vous allez peut-être par exemple faire des enquêtes auprès des artistes qui ont participé à cette opération pour leur poser des questions plus sur leur situation justement personnelle, leurs désirs, leurs envies, leurs espoirs, leurs besoins, etc.
Ben, certainement, ça va nous donner en effet une jolie photographie, comme vous le disiez, de l'art contemporain en France. Après, ça reste quand même réservé aux artistes qui ont accepté de participer à l'opération. Moi, je connais quantité d'artistes qui ne l'ont pas fait pour diverses raisons et ça ne me pose aucun problème, évidemment. Ce qui était intéressant, c'est que les artistes aient envie d'y participer. Mais c'est vrai qu'on va pouvoir ensuite utiliser ces rencontres virtuelles pour peut-être développer d'autres formes de réflexion qui sont intéressantes. Mais pour revenir à la question de la solidarité, et c'est une chose qui m'intéressait aussi de vous dire, tout au début, donc on était 7, il y avait 2 artistes parmi le groupe, il y avait une galeriste, il y a des amateurs d'art qui ont aussi monté toutes sortes de structures comme Tribute, dont je parlais tout à l'heure, comme MuseSquare, qui est aussi une plateforme, comme Les Amis d'IDEM. Donc voilà, ça a drainé toutes sortes de gens un peu variés. Et les artistes qui ont fait partie donc, de notre collectif dans la première partie, premier confinement, c'était eux qui nous ont poussés à monter cet aspect solidaire. Parce qu'en réalité, tout à l'heure, je parlais des ventes des artistes, mais les artistes ne reçoivent que 70% du montant de leur œuvre et ils acceptent de donner 30% à un organisme. Et cet organisme, c'est nous qui l'avons choisi à chaque fois, mais on a fait plusieurs opérations qui ont concerné plusieurs organismes. Donc, pendant le premier confinement, 4 organismes en ont bénéficié. Il y avait la Fondation Antoine de Galbert, puisque à ce moment-là, Antoine de Galbert a créé un fonds pour soutenir justement des artistes. Ils ont fait des actions très concrètes pour aider des artistes. Le deuxième organisme, c'était la Maison des Artistes, et qui, elle, regroupe énormément d'artistes en France, et qui a créé aussi un bureau d'aide sociale. Et là, ils ont aidé de manière très concrète aussi un grand nombre d'artistes, et ça, on est très heureux que ça a pu apporter des fruits directement. Le troisième organisme passe par l'intermédiaire du sang, qui est un atelier collectif. Et là, ça passait par le choix d'un fonds et avec des achats directement passés aux artistes. Et le quatrième, c'était Artagon, qui s'intéressait plutôt aux étudiants en art et les tout jeunes artistes, et pour les aider, là aussi, pendant ce confinement, à pouvoir continuer de payer leurs études ou leur loyer. Donc, à chaque fois, voilà, l'artiste, quand il vend son œuvre, il est content parce qu'il reçoit 70%, ce qui est quand même un bon pourcentage, mais ensuite, il participe à une action solidaire pour d'autres artistes. Et donc, Pendant l'ADA 2, la deuxième partie, donc le deuxième confinement, cette fois, nous sommes tournés vers une association qui s'occupe des femmes artistes en France et qui va permettre aussi à 8 ou 10 artistes de pouvoir développer des projets. Donc, on est très contents de le faire et ça tombait bien parce que ça correspondait à la question qui s'était soulevée, pourquoi autant de femmes avaient participé à l'ADA.
Oui, c'est ça. Donc, j'avais noté, c'est l'association des amis du National Museum of Women.
Et c'est une association française qui soutient pas seulement ce musée américain, mais qui soutient l'ensemble des femmes artistes en général. Cette action est tournée vers les femmes artistes en France. Voilà.
Et pourquoi finalement vous avez choisi qu'un seul organisme pour ce deuxième acte, alors que pour le premier, il y en avait quatre?
Parce qu'on s'est dit que peut-être ce confinement allait être un peu moins long que le premier, que peut-être aussi, nous on voulait se concentrer aussi sur une période plus courte, on ne voulait pas faire sur la durée du confinement total, mais sur une période plus recentrée. On s'est dit que peut-être aussi, et ça a été le cas d'ailleurs, et tant mieux, on en est très contents, les galeries s'étaient organisées. Pendant le premier confinement, elles n'avaient pas pu travailler beaucoup. Et donc, depuis, elles ont mis en place des outils qui permettaient de travailler quand même pendant le deuxième confinement. Et donc, on s'est dit que peut-être on aurait moins de monde. Et en réalité, on a encore presque 1000 artistes qui se sont inscrits.
Ah oui, voilà. Donc, ça a commencé le 6 novembre. Oui. Les inscriptions des artistes se sont clos là, le 22, hein, c'est ça.
Voilà.
Et donc là, des œuvres sont encore en cours de transaction, j'imagine.
Voilà. Jusqu'au 1er décembre. Voilà.
Jusqu'au 1er décembre, d'accord. Donc, vous aurez voilà, un bilan à faire à ce moment-là, dans quelques jours. Oui. Mais c'est aussi un enthousiasme aussi fort sur le deuxième confinement.
Oui, on n'était pas du tout certains. On s'était dit que peut-être les gens avaient moins la tête à acheter des œuvres et étaient plus inquiets pour leur propre survie économique. Et on a une chance folle. Enfin, c'est pas une chance. C'est que finalement, les gens se sont rendus compte. C'était intéressant cette question que le gouvernement nous a finalement amené à nous poser. Quels sont les commerces essentiels? Et bien, les commerces essentiels, visiblement, les galeries et les librairies n'en faisaient pas partie. Et bien, ça a amené beaucoup de réflexions. Ben, finalement, est-ce que l'art est essentiel? L'art est inutile, mais fortement essentiel, évidemment. Donc, on s'est rendu compte qu'on a besoin de vivre avec de l'art. Là, pour l'instant, on n'a pas encore les chiffres définitifs, mais c'est très, très bien parti. Et probablement, la cagnotte qui correspond aux dons qui sont faits à l'association, on va peut-être atteindre l'objectif des 10 000 euros.
Voilà, c'est l'objectif. Et oui. Vous en êtes où à peu près là en ce moment?
On a dépassé les 8000.
Ah oui, donc c'est bien parti.
Oui.
Oui. Oui, alors c'est Voltaire qui disait, je crois, le superflu est toujours nécessaire, hein, je crois. Donc, même si l'art, ce n'est pas forcément du superflu, mais en tout cas, du point de vue du gouvernement, voilà, on pourrait leur rétorquer cette phrase bien envoyée. Voilà, donc on a fait le tour, en tout cas, de ces deux actions. Vous me parliez un petit peu en début d'interview de cet intérêt qui était né pour les femmes artistes. Vous, personnellement, ça vous tient à cœur, cette cause, on parle beaucoup des femmes en ce moment, hein, depuis quelques mois, encore plus même des mouvements féministes se créent depuis quelques années dans tous les domaines. Les artistes femmes, c'est aussi évidemment très important. Il y a des artistes photographes par exemple qui ont aussi, je crois qu'il y a un beau livre là qui est sorti sur les artistes femmes photographes pour remettre en situation ces carrières oubliées de femmes photographes depuis plus de 100 ans. Il y a un problème de visibilité vraiment fort chez les femmes artistes.
Moi, depuis que j'ai commencé mes études, évidemment, c'était la chose qui m'a sauté aux yeux. Évidemment, le fait qu'il y ait si peu de femmes artistes dans les âges classiques. Donc, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup travaillé sur la question. Et puis, ensuite, maintenant, qu'en est-il pour les femmes artistes au quotidien et en 2020? Et on se rend compte qu'il y a toujours cette notion de plafond de verre qui est très, très important, qui est parfois crevé de temps en temps, mais pour des identités particulières, mais pas pour de manière générale, dans les écoles d'art, il y a quantité d'artistes femmes, et après, finalement, on les trouve beaucoup moins dans les carrières d'artistes qui réussissent. Donc, quelles sont les problématiques qu'il y a autour de ça? Ben, évidemment, elles sont très nombreuses, mais notamment la question de la maternité revient fréquemment. Et je me suis rendu compte, et ça m'a toujours beaucoup choquée, de femmes artistes dans mon entourage qui me disaient que ça leur posait des problèmes quand elles étaient enceintes. Leur galeriste n'hésitait pas parfois à leur dire « bon, bah là, c'est foutu, t'auras plus de carrière parce que tu te déplaceras plus », alors que cette question n'est jamais posée à un homme. Jamais, quand on sait qu'il a un enfant, on va s'inquiéter du fait qu'il sera encore disponible ou pas. Donc ça, c'est assez choquant. Je connais même des artistes performeuses qui ont dû cacher le fait qu'elles avaient eu des enfants. C'est quand même assez dérangeant. Alors que justement, ça apporte beaucoup, puis souvent leur travail est en lien avec cette notion-là. Il n'y a pas que la question de la maternité, il y a aussi vraiment la question de, bien souvent, on pense que le travail d'une femme artiste est un petit peu relégué, parce qu'un peu mièvre, un peu moins fort. Il y a eu des polémiques très régulièrement sur cette question-là, de commissaires d'exposition qui étaient interrogés, pourquoi vous montrez aussi peu d'œuvres de femmes ? Et la question revenait sur le fait que peut-être elles étaient moins fortes, ce qui me paraît très éloigné de la réponse. Oui. Je connais énormément d'œuvres d'artistes, femmes, qui peuvent être parfois beaucoup plus fortes que des hommes. Puis, de toute façon, la question du sexe n'est pas importante, ou la question du genre n'est pas importante. C'est au contraire ce que le féminin apporte et fait travailler à l'art qui est important.
Bien sûr. Et alors justement sur le style des œuvres qui ont été choisies, puisque chaque artiste donc doit choisir trois œuvres pour voilà dans le cadre. Hein, je reviens là à votre chaque action les amis des artistes. Oui. Est-ce que c'était des œuvres plus en majorité faites pendant le confinement ou les artistes ont choisi un peu dans voilà ce qu'ils avaient à disposition même avant finalement l'arrivée de la crise sanitaire?
Non, nous, notre idée, c'était pas forcément faire quelque chose qui soit tourné sur la question du confinement, du virus, de tout ce qu'on vit actuellement. Il y en a eu, mais pourquoi pas, c'était pas du tout un souci, au contraire, puisque ça fait partie des questions qui nous environnent. Mais non, c'était aussi donner la possibilité aux artistes de montrer et de vendre leurs œuvres, même des œuvres beaucoup plus anciennes, parce que là aussi, moi je suis toujours intéressée par ces questions de l'économie de l'artiste, et le problème du stockage est un problème très important que rencontrent aussi bien les galeristes que les artistes. Et donc, pouvoir justement remontrer des œuvres qui n'ont peut-être pas forcément été bien montrées ou suffisamment vues, ben c'est toujours intéressant.
Alors, les Amis des Artistes, du coup, est né au printemps dernier. Deux actions ponctuelles, donc, pour le moment, à son actif. Est-ce que ce collectif va continuer à vivre avec des actions ponctuelles ou est-ce que vous avez aussi l'ambition d'en faire une association un peu plus active sur un terme long et continu, j'allais dire, hein?
On s'est dit qu'on était un collectif à taille élastique, c'est-à-dire qu'au départ on était 7, pour la deuxième action on n'était plus que 4 parce qu'il y en a 3 autres qui n'ont pas eu la possibilité de participer. Enfin voilà, il faut que chacun puisse continuer ses activités, on est tous professionnels à côté. On ne s'interdit rien, c'est-à-dire qu'on sait qu'on aura envie de continuer des opérations ponctuellement, des opérations solidaires à chaque fois. Et puis, on sait qu'on a envie de monter peut-être d'autres opérations qui seront peut-être moins solidaires, mais plus continuer de montrer des œuvres et donner la possibilité à des artistes de vendre en plus de ce qu'ils ont comme possibilité. Voilà, on réfléchit beaucoup.
Alors, pour vous suivre, en tout cas, c'est hashtag les amis des artistes. Vous avez donc ce compte Instagram, une page Facebook, je crois également. À retrouver donc sur les réseaux sociaux. Vous avez également un site internet et on pourra donc découvrir, j'imagine, la fin voilà, de ce deuxième acte début décembre. Isabelle de Maisonrouge, avant de se quitter, un tout petit mot peut-être sur. Je disais que vous étiez écrivaine, voilà, que vous aviez donc déjà publié plusieurs ouvrages et je crois que vous êtes en train de travailler sur un autre livre en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous dire sur le thème ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est une. En fait, c'est une collection pour laquelle j'ai déjà écrit beaucoup de livres. C'est une collection qui concerne les idées reçues aux éditions Cavalier Bleu. Et là, ça concerne le tag, le graffiti et le street art. Et donc, toujours à travers le prisme des idées reçues.
Très bien, bah on ira découvrir ça prochainement, j'imagine. Merci beaucoup, Isabelle de Maison Rouge, d'avoir été donc avec moi dans cette émission sur Art District Radio. Donc, je rappelle que vous êtes critique d'art, commissaire d'exposition, enseignante, voilà, vous faites plein de choses. Ah oui, aussi secrétaire générale de l'AICA. Évidemment, si vous aimez l'art, les artistes, vous avez envie de soutenir les artistes, il est encore temps d'acheter des œuvres sur Instagram. Voilà, c'est la modernité, c'est le monde contemporain et virtuel. Qui veut ça? Merci beaucoup, Isabelle de Maison Rouge.
Merci beaucoup à vous. Merci, Julie.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Art Interview avec Julie Chaise-Martin, une émission à retrouver tous les lundis et jeudis à 14h et bien sûr en podcast sur artdistrict-radio.com.